L'année dernière, on a fait donc 7e année, ou 8e, je ne m'en rappelle plus, j'ai sauté une année, c'est pas grave. Le cantique spirituel, pour essayer de voir surtout comment il fallait que notre corps puisse s'engloutir dans la présence sanctifiante de la grâce lorsque nous faisions des actes d'adoration, des actes de transformation de ce monde ancien en monde nouveau. Et ceci à partir de Saint Jean de la Croix. Et j'espère que à force, ça fait 5, 6, 7 ans qu'on essaie de mettre notre nez dans les conseils qu'on rabâche sans arrêt, que finalement la sainteté, elle ne consiste évidemment pas à rester comme ça, en l'état, mais elle consiste à faire des actes de vie intérieure, des actes. Les actes humains sont des actes spirituels, ce sont des actes intérieurs. Et sans ces actes, il n'y a pas d'état de vie chrétien. Il faut des actes. Et ces actes, c'est à force de poser des actes. Donc toute la question de la direction spirituelle ou de la prise en main ou spirituelle, voyez, de notre vie humaine, comme de notre vie religieuse, comme de notre vie chrétienne, c'est de nous rappeler tout le temps que, premièrement, il faut certes s'arrêter, une demi-seconde par exemple, ou 3 secondes, vous êtes par exemple en voiture, vous roulez à 170 à l'heure en pleine ville. Bon, vous arrêtez pas à ce moment-là 3 secondes pour faire un acte d'adoration, parce que c'est dangereux. Mais vous arrêtez, vous faites comme moi, vous arrêtez un quart de seconde. Ça, vous continuez, et vous faites un acte. Ah, oui, alors ce cas-là, vous êtes tout à 100 à l'heure. Si vous êtes un feu rouge, vous profitez de faire un acte. Vous voyez, c'est un acte, comme je vous le disais samedi, un acte d'attention, mais en même temps un acte. C'est un acte. Vous voyez, un acte, c'est. Souvent on dit, vous serez jugé sur vos actes. Jugé sur vos actes. Alors du coup, on pense, ah oui, on sera jugé sur nos actes. J'ai fait la vaisselle, j'ai rendu service, je me suis occupé du sac des colis des autres avant de m'occuper de mon colis à moi. Voilà, ça, on sera jugé sur ces actes-là. C'est vrai. C'est vrai. Ça a quelque chose de vrai, vous voyez. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Par exemple, pour l'éducation des enfants, on les entraîne à faire des actes spirituels en leur apprenant à faire passer le rangement de la chambre de la petite sœur avant leur chambre à eux. C'est comme ça. C'est ça l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, on fait un tour de vaisselle, par exemple. Alors, il y a 5 enfants, il y a papa, maman et 5 enfants. Bon. Et du coup, il y a un jour pour chacun pour le tour de vaisselle. Bon, ça, c'est d'accord, c'est de la très bonne éducation. Mais l'éducation humaine de l'enfant consiste à faire en sorte, et c'est là qu'on voit que finalement on est un bon éducateur, à faire en sorte que finalement on lui fait comprendre que c'est plus important d'aider à faire la vaisselle quand c'est le tour de l'autre. C'est ça le plus important. Sinon, il n'y a pas d'éducation humaine. Sinon, c'est la justice, j'allais dire, totalement distributive. La machine à sous, elle fait pareil. C'est pas d'éducation. Tandis que faire un acte, vous voyez, un acte humain, c'est un acte d'intégration de la priorité de l'autre, vous voyez. C'est ce que dit Aristote. Il n'y a pas besoin même du christianisme pour ça. L'homme, c'est la seule réalité humaine, vous voyez, qui, au fond, qui soit finalisée par un autre que lui-même. Tous les autres, l'animal, la plante, le cosmos, tout ça, sont finalisés dans une finalité qui est immanente, qui leur est par une finalité qui est immanente à leur existence, voyez. Tandis que nous, c'est quelque chose d'autre qui est notre finalité. C'est l'autre qui est notre finalité. Il passe devant. Ça, c'est très très important, voyez. Si bien que quand c'est très important. Donc tout le problème, c'est de savoir quels sont les actes qu'on va faire. Et on va poser des actes. Bon, l'éducation, c'est pour avoir des jalons, c'est pour avoir des exemples, toujours, l'éducation. On va prendre des exemples, tu vois, il faut que tu regardes un petit peu avant de te servir à table de lait dans ton café au lait ou de prendre le croissant. Ouais, là, ça, j'avoue, je donne toujours un très mauvais exemple. C'est te préoccuper si l'autre a déjà le croissant à côté. Moi, je me précipite. Elle dit, je suis le représentant du Saint-Père. Mais vous savez, et finalement, pourquoi je donne pas l'exemple, certes, mais vous ne savez pas quel est mon acte. Je fais passer le Saint-Père. Mais vous voyez, alors, ça a l'air ridicule, mais c'est un point de vérification. Si un jour vous vous surprenez en disant, oh non, j'ai pas encore rangé mon... Hein, on prend le train, vous voyez, c'est très... On est toute la famille, on prend le train, bon, voilà. Alors, c'est vrai, j'ai trouvé ça très... Je trouve ça très beau, là, il n'est pas là, on peut pas parler, donc Bernard. Bernard, lui, il regardait d'abord, il prenait les sacs des gens qui voyaient qu'il n'en pouvait plus, puis après, il prenait le sien. T'as pas remarqué? À chaque fois. Hein? Ouais. Le sien, ça partait après, quoi. Il prenait, alors, je ne sais pas comment il faisait, parce qu'ils étaient lourds, les sacs de certaines filles. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils avaient amené un sac avec... Il y avait le coffret, il y avait les cosmétiques, il y avait... Oui, mais ça, bon, mais vous vous rendez compte, nous, on s'en rend compte aussi quelquefois, on se laisse surprendre. Et on s'aperçoit, tiens, d'abord, puis après, on va voir ton problème. Ah ben d'abord mon opinion, puis après ton opinion, on peut éventuellement essayer d'écouter par charité, et puis pour... Ouais. Les enfants, c'est ça qu'on leur apprend. On leur apprend à écouter d'abord les pensées des parents avant d'écouter leur propre opinion. Écoute, tu m'écoutes et ensuite tu réfléchis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aux enfants. Mais, voyez. Bon. Mais, puis quand l'enfant devient un fils comme Jésus avec Marie, alors ça c'est le contraire, voyez. J'écoute ce que dit l'Esprit Saint et après je prends mon opinion. J'écoute d'abord. C'est ça la paternité spirituelle, la maternité adulte. Donc quand mon enfant commence à devenir adulte, vous voyez, qu'il commence à avoir 15, 16 ans, déjà l'âge de raison déjà. Et c'est une nouvelle manière de parler à un enfant. C'est un acte intérieur différent. À l'extérieur, personne ne le verra. Mais c'est un acte intérieur. Il faut que je me force d'une certaine manière. Du moins, il faut que je sois conscient et que je choisisse de faire comme ça. C'est-à-dire qu'une seconde ou deux, du reste. Je choisis une attitude d'attention qui est humaine. Et bien, cette attitude d'attention, quand on est père ou mère d'un homme, vous voyez, quand on est père humain, quand on est papa humain d'un enfant, d'un fils, d'une fille, et bien, comment est-ce qu'on fait, vous voyez? Et bien, on écoute ce que l'Esprit Saint dit à l'enfant, et c'est ça qui m'enseigne. C'est pas mon opinion qui doit passer en premier cette fois-ci. Sinon, c'est plus de la paternité spirituelle. Vous voyez, quand vous allez voir un père spirituel aussi, pareil, un prêtre, vous avez des pères spirituels. Moi, j'avoue que j'en connais pas. J'ai toujours eu des pères spirituels remarquables. Ça, j'ai eu une chance incroyable. Mais c'est vrai qu'une fois ou l'autre, j'ai entendu parler de manières de faire qui me paraissent complètement aberrantes, en disant, moi je suis ton père spirituel, alors tu feras ça. Mais attends, pourquoi est-ce que tu dis là? Hein? Tu écouteras ce que je dis, mais le père spirituel, c'est pas ça, enfin, voyons. Le père spirituel, il est témoin de ce que le bon Dieu fait dans le cœur de quelqu'un. Il en est le témoin. Il est là, et puis du coup, il l'intègre, vous voyez, il l'intègre. C'est beaucoup plus de l'accueil, la paternité humaine, que lorsqu'elle est spirituelle, je veux dire, lorsqu'elle est adulte. J'intègre, je suis témoin de ce que l'Esprit Saint fait dans celui qui est là, voilà, Il est là, cet esprit lui dit les choses de cette manière, très bien. Alors, du coup, de temps en temps, alors quel est le rôle? À ce moment-là, j'ai aucun rôle. Je suis là, j'attends, patate, tu me dis un petit peu, je suis témoin, oui, j'ai un rôle. Là, il y a une éducation quand même, et cette éducation, elle va consister en quoi? Paternité spirituelle. Elle va consister tout simplement à être au service, quelque part, vous voyez? Un service invisible, hein? Attention, c'est pas ça. Ouais. C'est marrant, parce que les dirigés qui ont un père spirituel, quelquefois, le père spirituel est au service, mais un service invisible. Ah, mon père spirituel s'occupe pas de moi. Alors là, ça arrive quelquefois que des gens pensent ça. Bon, ça veut dire que ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, quoi, hein, strictement rien. Bien sûr, il s'occupe, puisqu'il est témoin, donc il intègre et il porte. Puisqu'il s'agit à ce moment-là d'élever, hein, le débat, si je puis dire, mais c'est une élévation en portant. Je viens porter mon enfant, je viens le porter, et je prie avec lui, vous voyez, mais je suis témoin. Donc premièrement, je le porte, deuxièmement, je le réengendre une nouvelle fois dans la grâce actuelle que Dieu me donne à moi, voyez, et troisièmement, je réponds aux questions qu'il veut bien me poser lorsque il n'est pas éclairé lui-même sur un point important, j'ai bien dit un point important, qui engage toute sa vie. Pas qui engage un petit problème de savoir si je vais prendre la casserole ou la poêle pour faire d'un œuf sur le plat. Pas pour savoir si je change ma voiture ou pas. Alors là, parce que moi je connais des pères spirituels qui sont comme ça. Hein. Je suis ton père spirituel, tu es prié de me demander si tu achètes une Peugeot 205 ou si tu achètes une Mercedes. Truc à triple injection, je sais pas quoi, double pont. Mais genre, je vous affirme qu'il y en a qui sont comme ça. Bon, c'est très caricatural, mais il y en a, que personne ne me dise ici, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture? Ah, c'est mon père spirituel qui me l'a demandé. Parce que si l'un d'entre vous, n'est-ce pas, que connaît un père spirituel qui veut ça, qui vient de me voir, ça m'intéresse. Donc, vous voyez, donc il vient là, donc troisièmement, pour confirmer. Une confirmation, c'est ce que dit Jésus à Saint-Pierre, hein, dit confirme-la à tes frères. Tu es serviteur de tes frères, tu reçois tes frères, tu es attentif invisiblement. Il ne peut pas être présent à tout le monde, évidemment. Il ne peut pas passer son temps à écouter tout le monde. Il ne peut pas s'entendre. Un père spirituel n'est pas là. Un père spirituel, on va le voir combien de fois? Oui, au point de vue du temps. Un père spirituel, on va le voir une fois par an. Pas plus. Puisque lorsque j'ai besoin d'une réponse audible, sensible et visible, c'est pour des problèmes où vraiment je ne suis pas éclairé moi-même, en conscience, je ne suis pas éclairé. J'hésite vraiment entre deux choses, vraiment je ne sais pas. Alors. Mais donc, je vais voir le père spirituel et lui, et je penche quand même de ce côté-là, vous voyez. C'est peut-être par là. Alors, on discute et à force de discuter avec le père spirituel, lui, il va dire, à un moment, quand vous avez parlé, il va dire oui. Ben, oui, apparemment, ben, ça c'est bien. Il va confirmer. Il va être, donc, il est témoin de ce que l'Esprit Saint fait en vous. Et lui, il va vous dire, ben, apparemment, ben, tu, vous, c'est ce que dit Jésus. Vous l'entendez souvent dire dans l'Évangile. C'est toi-même qui l'a dit. Ça, c'est de la paternité, vous voyez, spirituelle. Ça. C'est toi-même qui l'a dit. Hein, comment Jésus a éduqué Pilate? C'est toi-même qui l'a dit. Mais mettre ses enfants ou ses dirigés au diapason de sa manière de voir la vie, c'est très mauvais. C'est très mal. C'est destructeur. Et ça tue l'autonomie de celui. Et donc, vous voyez, et donc à ce moment-là, au lieu d'être père et mère, on devient, j'allais dire, le meurtrier de ses enfants, vous voyez. L'avortement, il n'y a pas que l'avortement. Non. On a confiance. Le Seigneur lui a donné la vie. Il l'aime. Il le dirige. Et vous, il vous donne la grâce. Vivez de la grâce. Vous recevez votre enfant dans ce qu'il vit. Et puis, vous ne tourmentez pas puisque Dieu est là. Ah oui, mais enfin, si, il y a ça. Genre, et son avenir. Et son... Mais laisse tomber, s'il te plaît, non? Vous voyez? Alors, du coup, c'est moi qui. Mais non, c'est pas toi. Hein, un père spirituel, ça se voit, je vous dis, à peu près une fois, bon, deux, si vous voulez, par an, quoi. En gros, moi, mon père spirituel, ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Et je suis très content. Non, mais attends. Non, mais même quand ça a toujours été comme ça, si vous voulez. Je me rappelle quand j'étais à Montmorin, par exemple, que ce père Emmanuel était mon père spirituel. Ça va? Bon, alors au début je savais pas, je sentais pas trop ce que c'était que la père spirituelle. Je ne savais pas trop, parce que, bon, pour diverses raisons. Encore que pourtant, j'avais vécu ce que c'était que la patate spirituelle avant, enfin, avec les précédents. Mais enfin, je me suis dit, ça change, c'est chez les moines, le père spirituel, c'est différent, ce qui est un peu vrai, hein, parce que c'est un peu vrai, parce qu'il y a aussi le père maître. Ah, le père maître, c'est différent, maître des novices, c'est différent. Bon, il se trouve que le père Emmanuel joue le rôle, en même temps, de père maître que de père spirituel. Mais enfin, avec moi, il n'avait pas du tout envie de faire le père... Enfin, à le permettre. Enfin, oui, au début, oui. Donc, mais au bout de quelques mois, 7-8 mois, il n'a plus eu envie de faire le permettre. Alors moi, je pensais que... Alors j'allais le voir. Le père Jean, il allait bien le voir tous les soirs. Père, j'ai fait ça. Est-ce qu'il faut que je fasse comme ça, des choses comme ça? Mais oui, Jean. Mais bien sûr, Jean. Mais c'est évident, Jean. Et alors moi je disais, bon, ben, je vais peut-être aussi, hein, alors, mon père, etc., voilà. Alors, Jean, ça l'intéressait, mais moi, parce que moi, je le faisais, vous savez, pour faire bien, je veux dire, pour, parce que Jean, c'était spontané, moi, c'était pour faire bien, c'était pour être un, pour un, c'est coucou, il y a Jean, mais il y a aussi moi, hein, je veux dire. C'était ça, vous voyez. Et au bout d'un certain temps, je dis, il me dit, écoute, voilà, nous allons faire les choses tout simplement. Hein, écoute, pour qu'on soit bien tranquille entre nous, mais tu ne viendras qu'une fois par semaine. Et bien, tu viens le samedi après-midi. Le samedi après-midi, tout simplement. Hein, et mon père vers quel... Mais je suis toujours là. Alors donc, une heure ou deux heures, et puis voilà, tranquillement une petite heure, et puis voilà. Et à partir de ce jour-là, je ne venais plus avec lui dans les jours de semaine, et je venais le samedi après-midi. Pendant 7 mois, tous les samedis après-midi, de 13h à 18h, il était absent. Hein, ça s'appelle de la direction spirituelle. C'est évident. Laisser, alors qu'on a un père spirituel, quelqu'un dans une situation de dépendance, c'est monstrueux. Uniquement parce que j'ai une inquiétude, une angoisse, alors du coup je laisse une situation de dépendance aliénante. C'est monstrueux. Vous voyez, cette tentation toujours de ne pas faire confiance. Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça, je vous dis, c'est une fois par an. Une fois par an. Pourquoi une fois par an? Parce que c'est pour une orientation, pour votre vie, vous voyez. Alors est-ce que je... Vous voyez, c'est pour votre vie, vous voyez. C'est ça engage vraiment, c'est un chemin, quoi. Ça sera pas pareil, hein, vous savez. Alors, vous savez pas, hein, vous êtes à crainte et tremblement. Est-ce que ça vient du bon Dieu? Voilà ce que le Seigneur me dit, et voilà pourquoi j'ai envie d'aller dans cette direction-là, parce que voilà, j'étais en train de dormir et j'ai eu une apparition. Voilà, j'ai eu une apparition, j'ai eu une vision, et dans ma vision, dans mon rêve, ben voilà, il y avait une espèce d'immense glace. Alors je suis monté sur la glace, puis après il y avait un cheval blanc, puis après, il y avait un... et puis voilà, le cheval blanc il m'a regardé. Alors j'ai eu peur, je suis redescendu de la glace. Du coup je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je... Ça veut dire que le Seigneur il me dit que... Il faut que je descende de la glace, quoi. C'est-à-dire que je retourne, enfin, je m'assieds arrière et que je prends une autre direction. Voilà. Mon père, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, j'ai décidé de changer de direction. Alors, je dis, oh, mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est... Là, voilà. Voilà quelque chose de très intéressant. Oui. Tu pourrais pas me donner d'autres indications. Ça t'arrive souvent de faire des rêves comme ça, peut-être. Et on essaie d'en savoir davantage, vous comprenez? Pour savoir ce qui se passe sur le plan spirituel, pas sur le plan imaginaire. Et là, on commence à parler de vie spirituelle, ta prière, machin, truc, tes actes. Ah, bah tu vois, voilà. À un moment donné, c'est spirituel, c'est évident que c'est spirituel. Bon, ben voilà, ben c'est bien, voilà, ok. Ben, tu vois, là, est-ce que c'est, ben, là, t'es dans la bonne direction, là. Oui, on est là pour confirmer, ok? Pour recevoir ce qui est spirituel et le confirmer, l'encourager, l'envelopper, puis le porter et prier avec lui après, pendant un an. Pour celui. Voilà. Hein, c'est des petites indications, mais ça n'a rien à voir avec mon sujet. Bon, c'est pas grave, bon, je suis désolé. Enfin, justement, notre sujet, c'est quoi? Notre sujet, on n'a pas de sujet. C'est ça qui est génial dans le petit déjeuner du lundi, c'est que nous n'avons pas de sujet. Vous voyez? On n'a pas de sujet. Mais, bon, si jamais il n'y a pas de sujet, je prends un truc, vous voyez? Je prends quand même un fil rouge, bon, qui me semblait intéressant à fouiller, à creuser, vous voyez? Je vais quand même... J'ai 4 livres ouverts, là, sans compter plein de notes. Je ne sais pas comment je vais faire pour lire tout ça en 10 minutes. c'est la question de la tentation. Notre vie spirituelle, qu'on puisse faire des actes, c'est une chose. Oui, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a regardé, c'est quels sont les actes qu'il faut produire pour actuer notre humanité, pour actuer notre union à Dieu, pour actuer la sainteté du Christ et de l'Église tout entière à travers nous. Voilà, au fond, notre thème depuis 7 ans. Vous voyez? Voilà ce qu'on fait, le petit déjeuner du lundi, ça, pour notre vie intérieure. Mais dans notre vie intérieure, il y a ces actes, mais il y a aussi, donc, de temps en temps, des tentations. Il y a aussi, au fond, des illusions spirituelles. On a des impressions synagogiques, des impressions spirituelles, et tout cela exige, lorsqu'on est introduit dans cet admirable exercice, voyez, eh bien, on se rend compte qu'il est nécessaire qu'il y ait au moins un certain discernement. Et donc la question du discernement, de la nature même de nos actes, et de manière à voir si il y a eu quelque chose où l'illusion a pénétré, où l'orgueil a pénétré, où le temporel a pénétré, voyez? La tentation du messianisme temporel, la tentation de l'orgueil, la tentation de la vanité, la tentation, donc toutes ces tentations, la tentation du démon, la tentation de celui qui se cache et qui ne veut pas se démasquer, et la tentation du monde, la tentation de l'homme aussi. Donc, c'est tout. Il y a toutes sortes de tentations. Et en même temps, ce qui est aussi intéressant de regarder, et c'était moi ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui, mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps, on le fera la prochaine fois, c'est pas grave, on a toute l'année. S'arrêter de regarder que ces tentations vont changer de visage. Parce que lorsqu'on vient de se convertir, vous avez commencé à faire oraison, et vous sachez que vous êtes parti au fond des convertis, quoi, des néophytes, si vous commencez à faire oraison. Voilà. Avant, vous ne faisiez pas oraison. Un converti, c'est quelqu'un qui commence à faire oraison tous les jours. Voilà. C'est un converti. Et on reste un converti, on appelle ça un néophyte, ce que Saint Jean de la Croix, ce que la tradition de l'Église appelle les commençants. Les commençants, ça dure à peu près 7 ans. Hein. Donc si... Alors, du coup, les tentations chez les commençants, si vous voulez, ordinairement, sont très faciles à repérer. Sont assez faciles à repérer. Oui. Mais quand on commence à rentrer dans l'union transformante, hein, et qu'on rentre, par exemple, dans la voie illuminative. Alors, comptez, vous voyez, la voie illuminative, c'est ce qui nous permet après d'être témoins, mais témoins spirituels. Vous voyez, de 7 à 12 ans, quoi. Puis après, c'est la voie unitive. Alors là, ça y est. La voie unitive. Alors après, c'est les parfaits. Alors, eh bien, les tentations changent de visage. C'est-à-dire que le visage, un discernement d'une tentation chez un commençant, voyez, qui sera quelque chose qui sera détecté par le commençant comme une tentation, parce que c'est vraiment une tentation, ne sera plus du tout une tentation pour quelqu'un qui est dans la voie de perfection. Voyez. Et quelque chose qui est une très grosse tentation pour quelqu'un qui est dans la voie illuminative, c'est au contraire une très grande grâce pour celui qui est dans la voie des commençants. Donc, vous voyez, ça veut dire que, vous voyez, c'est pour montrer que c'est quand même, peut-être qu'à la fin, on aura le bonheur de pouvoir faire une espèce de tableau récapitulatif, exactement la sonnerie qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs. Mettre un tableau clair sur les tentations, n'est-ce pas? Voilà exactement ce à quoi on va aboutir et qui est pourtant exactement vraiment la sonnerie qu'il ne faut pas faire. Et mettre un tableau avec les tentations, les commençants, parce que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Dans la distinction, oui, voyez, mais dans l'acte concret, ça ne marchera pas. Ouais, ça, c'est mystérieux, hein. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait... qui prend Jésus après le baptême et qui le mot en français, c'est comme toujours complètement nul, et qui l'envoie au désert. Non, mais c'est pas que c'est le mot en grec. Il le projette au désert. C'est l'Esprit Saint qui prend Jésus et qui le mot en grec. Vous savez comme les mots grecs sont. Une précision incroyable. L'Esprit Saint prend Jésus au baptême de Jean-Baptiste et quelquefois dans les traductions, il le pousse au désert. Mais ce n'est pas poussé non plus. C'est quelque chose de très violent, vous voyez. C'est l'Esprit Saint, vous voyez, la violence de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'unité du Père et du Verbe qui se cache en moi. Qui, lorsqu'il est en union avec Dieu le Père, il y a la présence de l'Esprit Saint et on est poussé au désert pour être affronté à une tentation. Et donc ça ne se verra pas sur un tableau. Ça ne se verra pas sur un tableau. Mais ça ne fait rien, ça ne nous empêchera pas de faire le tableau quand même. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Je ne sais même pas si on le fera d'ailleurs. Mais ça ne fait rien. Parce que moi j'aime bien les tableaux. Ça met un certain nombre de clarifications, disons, extrêmement grossières. Voilà, le truc élémentaire. Élémentaire. Mais la tentation, c'est pas ça, vous voyez. Et si ça vous va, on cadrerait ça. Puisque lundi matin, on essaie de voir nos problèmes habituels, comment est-ce qu'on fait, pourquoi, ici et là, et comment est-ce qu'on se sort de telle situation, et quels sont les principes, quoi, quels sont les... Et on va toujours retrouver quels sont les actes, alors, qu'il faut faire pour sortir de la tentation. Quelles sont ces tentations? Donc le mystère de la tentation, c'est quand même quelque chose. Tentation. Eh oui. Rappelez-vous toujours que nous n'allons pas revenir à ces choses-là. Il y a certes les commençants, les progressants, la voie illuminative, la voie de l'union transformante absolue, dans le mariage, bon, certes, mais il y a aussi dans l'histoire de l'Église, la tentation change de visage. On sait très bien, par exemple, dans le ministère de l'exorcisme, le phénomène de la possession, par exemple, de l'infestation, etc., change de visage en fonction des âges de l'Église. Aujourd'hui, c'est plus tout, ça n'a rien à voir. On assiste à des phénomènes, non pas de possession de personnes, mais on assiste à des possessions des relations. Et du coup, il y a enveloppement et obsession de groupes, de communautés, de pays, etc. C'est quelque chose qui est complètement nouveau, on n'avait pas ça. On a ça juste dans l'évangile et titre de prophétie, quand Jésus, dans ce raccourci fulgurant, se retrouve de l'autre côté du lac, et il se retrouve avec cet homme qui est seul, possédé. Et ça, c'est le démon. Et les démons vont posséder un troupeau de 2000 porcs. 2000 porcs. Un raccourci extraordinaire. Je suis l'alpha et l'oméga. 2000. C'est ce raccourci, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé ce passage de l'Évangile. Beaucoup. Ça a beaucoup de choses à nous dire, bien sûr. Deux, c'est quoi? C'est le Verbe de Dieu. Mille, c'est quoi? C'est l'Immaculée Conception.
C'est très beau, Père, parce que, excusez-moi pour la parenthèse, 2000, on arrive aux 2000 années, alors tout le mal va nous offrir
pour les... Oui, on arrive au Verbe de Dieu, 1000, dans l'Immaculée Conception. Donc lorsque nous arriverons dans les actes de vie chrétienne à comprendre que notre acte de foi, séparé du mystère de la transverbération de Marie, lorsqu'on en arrivera là, lorsque universellement la catholicité trouvera cet enseignement de la part du Saint-Père de manière officielle, ce qui est le cas, je vous signale, depuis 1964, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'en effet, la tentation aura un autre visage que le visage d'un type qui est possédé dans un cimetière. De l'autre côté du lac de Génézaret, il est tout seul, le type avec les totos qui sont dedans. Et quand on l'enchaîne, quand on met des gros chaînons gros comme le bras, on l'enchaîne, plac, il fait péter les chaînes. Plac. C'est extraordinaire ce type-là, ça devait être marrant, hein. C'est une espèce de King Kong extraordinaire. C'est formidable, quoi. Schwarzenegger, Rambo, tout ça, King Kong, et vous faites un mélange, ça donne ce mec. Vous mettez le démon au milieu, quoi. Il est dedans. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme prêtre exorciste, au lieu de mettre Saint Paul, Saint Pierre, etc., on met toujours des petits prêtres avec un béret noir, facile. exorciste, on a peur que si on souffle dessus, ils vont s'effondrer. Ça, c'est vous le père exorciste du diocèse? Ah, C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Mais oui, ça devient collectif. Ouais, ça, c'est quelque chose. Je vous le dis d'ailleurs. Oui. C'est intéressant pour le mystère de la tentation, ça. Parce qu'il faut comprendre aussi. Donc, il y a un changement du visage de la tentation en fonction aussi des âges de l'Église. Des âges de l'un de la personne, des âges de l'Église. La tentation vient du principe même de la révolte angélique, donc vous pensez bien que ce n'est pas à notre portée, hein, la tentation. Et on en parle bien du mystère d'iniquité. C'est un mystère, le mystère d'iniquité. Eh oui. J'en viens maintenant, c'est le Saint-Père qui disait ça. Quand Saint-Père est venu en France il y a 15 ans, il a rassemblé, vous connaissez par cœur cette phrase, parce que je connais quelqu'un qui en parle souvent, ça. Et qui aurait voulu être une petite souris. Il aurait voulu être une petite souris pour rentrer en dessous de la table et de la chaise du cardinal Marty pour écouter avec tous les évêques de France que le Saint-Père leur disait. Les évêques de France. Il aurait voulu être une petite souris. Vous avez jamais entendu parler de ça? Je vais vous lire ce texte. Parce que le Père Marido, il dit toujours, le Saint-Père a dit aux évêques de France, nous sommes face à la méta-tentation. Là, je vais vous lire ce texte. Ce n'est pas exactement ces mots-là, hein, donc on va voir ça. Page 151, 152, 153. 154 et 155. Voilà le truc. Donc, au centre, le centre du texte est page 153. Alors, j'en viens, voilà ce que Saint-Père a dit aux évêques de France en catimini. Mais enfin, c'est en catimini qui finalement, il y a une petite souris qui l'a quand même fait publier. Donc j'en viens à une autre question fondamentale. Pourquoi, dans l'étape actuelle de la mission de l'Église, une concentration particulière sur l'aume est-elle nécessaire? Sur l'aume. C'est extraordinaire, la possession du démon sur 2000 cochons. Vous avez tout compris, j'espère. Hein? J'ai développé cela dans l'encyclique Redemptor Hominis en essayant de mettre en évidence les faits que cet accent anthropologique, cet accent, cette concentration vraiment spéciale, particulière, universelle, là on a un capital de vie qui est limité, sur l'aume. Donc pourquoi cet accent anthropologique a une racine christologique profonde et forte? C'est à cause de notre enracinement dans la résurrection acquise dans le Christ que tu se concentres sur l'aume. Les causes en sont diverses. Il y a des causes visibles et perceptibles, selon les variations multiples qui dépendent par exemple du milieu, du pays, de la nation, de l'histoire, de la culture. Il existe donc certainement un ensemble spécifique de causes qui sont les caractéristiques, par exemple, de la réalité française, de l'Église dans le monde de ce temps. Vous êtes les mieux placés pour les connaître et les comprendre, cela. Mais si je me permets, moi, le pape, d'aborder ce sujet, je le fais. Il s'excuse auprès des évêques de France d'aborder ce sujet. Je vous demande pardon, je me permets de rentrer dans la... Je le fais avec la conviction que le problème a une dimension à la fois fondamentale, tout est basé là-dessus, et universelle, aucun n'échappe. Dans cette dimension universelle, et en même temps locale pour vous, la France, là, l'Église doit en conséquence affronter cette problématique commune de l'homme comme une partie intégrante de sa mission évangélique. Je vais commenter après. Non seulement le message évangélique est adressé à l'homme, mais c'est un grand message messianique sur l'homme. C'est la révélation à l'homme de la vérité totale sur lui-même et sur sa vocation dans le Christ. Donc, en annonçant ce message, nous sommes au centre de la réalisation du Concile. Et ça, on a vu hier à quel point c'est important, cette histoire. C'est parce qu'on prolonge le matin toujours ce qu'on a dit la veille, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas répéter ce qui a été déjà dit dans Gaudium et Spes et dans Redemptor Hominis, auquel il faut toujours se reporter. Un jour, il faudra vraiment qu'on s'y mette, à lire ce concile. Tiens, je m'étais posé la question d'ailleurs. Il faudrait qu'on lise. Il faudrait qu'on lise ça, qu'on fasse la théologie mystique et la philosophie aussi sous-jacente, si vous voulez, à ce qu'il y a dans le concile. Il faut reconnaître que c'est. Je me demande pourquoi on perd du temps avec le reste, tu restes, parce que c'est. Parce que ça, c'est tellement incroyable. C'est comme l'Apocalypse, si vous voulez. Heureux ceux qui lisent les paroles prophétiques de ce livre, personne ne le lit. On se demande pourquoi. Tiens, que je suis malheureux. Il n'est peut-être pas exagéré de dire, en ce lieu et dans ce cadre, donc le pape avec les évêques de la matrice des saints, puisque c'est ce qu'il a dit, il l'avait dit juste avant, vous êtes les évêques de la France, la matrice des saints. Donc le pape se trouve dans ce cadre et dans ce lieu où il se trouve présent de Pierre, successeur apostolique, avec toute l'infaillibilité de la voie doctrinale de l'Église qui correspond dans la matrice de la sainteté des saints. C'est ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre ces paroles. Il n'est pas exagéré ici de dire que nous vivons une étape de tentation particulière pour l'homme. Oui. Voilà, c'est ça la fameuse phrase. Des tentations particulières. Remarquez, peut-être que le pape aux évêques a dit méta-tentation. Parce que vous savez qu'il y a le texte écrit et puis il y a ce qu'il dit. Donc on sait que si le texte qui écrit ici, il y a écrit une étape de tentation particulière pour l'homme, on sait aussi par des fuite que il l'avait dit méta-tentation. Mais c'est pas écrit. Mais quelques évêques ont dit, il a dit méta-tentation. Bon, enfin, j'ai entendu en tout cas moi, certains pères le dire aussi. Je crois que c'est ça. Oui. Méta-tentation. Méta-tentation, remarquez que il faut entendre aussi le Saint-Père, parce que des tentations particulières pour Rome. Et quand le Saint-Père dit, il faut connaître son langage, il a une philosophie quand même, tentation particulière, ce mot particulière en phénoménologie, dans l'approche phénoménologique du Saint-Père, ça veut dire particulière, ça veut dire terminé, quoi. C'est le sommet, c'est ce qui fait, c'est la clé de voûte particulière, ce mot-là, dans le Saint-Père. Donc une tentation, clé de voûte. Effectivement, ça veut dire la même chose. Quand on sait que dans la phénoménologie du Saint-Père, particulière, la tentation, clé de voûte. Métatentation. Il y a une tentation au départ, voyez, il y a une tentation au départ, c'est le péché originel. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une métatentation aussi, c'est une tentation particulière pour l'homme, le péché originel. C'est une tentation particulière, ça c'est sûr. Dans la foi, dans l'écriture, il y a deux métatentations. Il y a la tentation particulière, la métatentation de l'origine, qu'on trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et au chapitre 1. Et puis, il y a la tentation, métatentation finale, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. La métatentation. Alors, le livre de l'Apocalypse, il s'ouvre, comme nous l'avons vu hier, sur ce fait qu'il y a 2000. Voyez, il y a le Verbe, est inscrit corporellement dans l'Immaculée Conception. Et ça s'est passé lorsqu'elle devient mère de Jean. Voici ta mère, transverbération. Et bien à ce moment-là, il y a cette tentation qui fait que le démon va pouvoir s'emparer de ce troupeau de porcs. Et donc, tout le problème de l'Église, ce sera donc de faire attention à l'homme. À l'homme. Voyez, c'était 2000 porcs. Vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Quand c'était un seul homme dans le cimetière, avec tous ces démons, le démon avait beau être présent en lui, légion, avec toutes ces légions, le Christ l'a chassé en un mot. Un mot. Mais le démon avait beau être là, et avec toute sa puissance, toute sa rage, si vous voulez, ça restait un homme, c'était pas un cochon. Et il restait là. Et le démon ne pouvait rien faire contre cet homme, seulement faire que bon, il s'énerve un petit peu et qu'il préfère rester seul dans un cimetière, c'est tout. Il ne pouvait pas faire plus sur lui. Le démon ne pouvait pas faire plus sur lui. Extraordinaire. Ça restait un homme. C'était un homme. Il avait le visage d'homme. Il était debout. Il parlait. Il criait. Il faisait peur. Mais c'est tout. Tandis que quand ces démons ont été sur les porcs, même 2000, ça n'a pas duré une seconde. Ça a été la mort immédiate pour tous ces porcs qui sont eux-mêmes jetés dans l'eau. Ils sont morts tous. Ce qui veut dire que le seul fait qu'il y ait, vous voyez, il y aurait des milliards d'êtres humains qui perdraient leur humanité, si vous voulez, à cause d'une tentation spéciale. Une tentation spéciale, c'est ça la métatentation. C'est une tentation qui fait que les hommes collectivement, chacun en particulier et collectivement, perdent le sens de leur humanité, tuent en eux l'humain. Alors à ce moment-là, le démon aura pouvoir pour la destruction de l'humanité tout entière d'un seul coup. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Et donc tout le travail de l'Église, c'est pas de dire convertissez-vous au christianisme, bien sûr, si tu veux aller à l'Eucharistie au baptême, je confirme paternité spirituelle. Confirmation. Tout à fait. Mais déjà, s'ils ont un amour humain, vous voyez, ça prouve qu'il y a la grâce sanctifiante. Ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas, à l'époque de Aristote. À l'époque d'Aristote, l'amitié, la fidélité jusqu'à la mort, jusqu'à l'héroïcité comme Socrate, etc., c'est courant. Ouais. Tandis que dans la méta-tentation, si quelqu'un est encore capable, habituellement, de voir que c'est le problème de l'autre qui passe avant le sien, c'est qu'il a la grâce sanctifiante. Il est humain. Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le travail de l'Église, c'est de faire en sorte de mettre tout le service du Christ, de la présence miraculeuse de la grâce, de toute la gloire de l'Eucharistie, pour le réveil de notre cœur humain, de notre vie contemplative humaine, de notre corps humain, qu'on n'est plus un corps de cochon, qu'on n'est plus une imagination pire que les cochons, n'est-ce pas, et qu'on n'est plus donc un cœur, voyez, égoïste. Et c'est ça que dit Saint-Père. Nous vivons une étape de méta-tentation pour l'homme. Donc la deuxième méta-tentation, c'est clair que c'est celle de l'Apocalypse. C'est celle de l'Apocalypse. On le lira, si vous voulez. Ben, on le lira dimanche prochain, je crois, dimanche dans 5 mois. Ben, on le lira. Comment, qu'est-ce que c'est que cette tentation, cette méta-tentation, cette bête? C'est quoi cette bête? Et contre qui est-ce qui est visé, voyez, dans la tentation, voyez? C'est quoi qui est visé? Et quelle est la réponse à la tentation, voyez? C'est tous ces textes qu'il va falloir qu'on regarde. Comment. Et puis c'est limpide. Mais le Saint-Père dit, nous vivons une étape de méta-tentation. Et c'est dans ce contexte-ci que je le dis. En France, devant les évêques de la matrice des saints. Il n'y a qu'en France qu'on peut dire ça.
C'est quand même assez fort, vous voyez. Parce que l'homme contemporain, oui, la tentation actuelle va plus loin. Alors là, ça c'est marrant, je vais vous le dire encore avant. Nous connaissons différentes étapes de cette tentation, à commencer par la première tentation particulière, méta-tentation, au chapitre 3 de la Genèse, jusqu'aux tentations significatives, donc méta-tentation du livre de Genèse. Au fond, j'ai dit il y a 2 méta-tentations. En fait, il y en a 3 méta-tentations. Qu'est-ce qui peut me dire que la troisième que j'ai oubliée? C'est son père qui me l'a rappelé. Mais vous allez voir. Il y a 3 méta-tentations. La tentation du Christ au désert. C'est une méta-tentation. Jusqu'aux tentations si significatives auxquelles a été soumis le Christ lui-même. Elles sont comme une synthèse de toutes les tentations nées de la triple concupiscence. Saint-Père dit, attention, vous ne pouvez pas comprendre les tentations si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'homme d'origine. Si vous ne saisissez pas par expérience le corps originel de l'homme, comment saisirez-vous la tentation fondamentale? Si vous ne saisissez pas le corps incarné du Christ dans la croix tel qu'il est porté intégralement par sa mère, l'Immaculée Conception, comment comprendrez-vous la tentation religieuse? Et si vous ne saisissez pas le corps mystique de l'Église à la fin des temps, au moment où elle peut engendrer la Jérusalem céleste, glorieuse et éternelle, comment comprendrez-vous la tentation qu'on appelle la méta-tentation, celle d'aujourd'hui? Saint-Père dit, c'est nous. La voix infaillible de l'Église a parlé. Et si les gens n'avaient pas compris, il est allé aux États-Unis et en présence du président des États-Unis, ex-président, 33e degré de la loge d'Écosse, il a déclaré la guerre à cette culture des morts de l'homme. Donc l'Église infaillible, la succession et le corps mystique du Christ, pour la première fois dans l'histoire de la création, proclame que la guerre définitive est ouverte. La guerre finale, guerre eschatologique. On a assisté à ça. Il n'y a pas longtemps. Et on rentre là-dedans. Et maintenant le Saint-Père, donc, rassemble les troupes. On a 3 ans. Et touc. On a intérêt à prendre le béret noir, faire et avoir l'air chèvre. Puisqu'il va y avoir les chèvres et les bouquins. Alors. C'est ça. La tentation actuelle, cependant, va plus loin que ces deux tentations. Ce texte sur la tentation du pape est vraiment génial. Hein. Plus loin que la tentation de l'origine. Alors, la tentation de l'origine, c'est quoi? C'est la tentation de deux êtres humains absolument parfaits. C'est-à-dire que s'il faisait, lorsqu'il posait un acte comme ça, un acte d'amour, un acte d'attention mutuelle, un acte d'attention à la création, immédiatement, leur corps, leur âme et leur esprit étaient dans une unité de lumière, et en même temps leur communion des deux, des personnes, étaient dans une unité de lumière telle qu'ils étaient dans le même état que l'état du corps du Christ et de ce, au moment de la transfiguration, du Tabor. Voilà l'état d'intelligence, d'amour, de nature, et de nature, la nature humaine normale dans laquelle ils étaient. L'état d'intelligence et de puissance et d'autorité aussi. Sur toute chose, sur toutes les réalités de la nature, sur la présence même d'immensité de Dieu qui était intégrée dans une lumière transfiguration. Voilà ce que Jésus est venu manifester aux apôtres sur le Tabor en se transfigurant lui-même. Voilà ce que Marie et Jésus ont manifesté à Joseph en réalisant la nativité de la lumière dans un corps transfiguré pour qu'une naissance virginale et glorieuse, en fait pas glorieuse mais de transfiguration, où le Christ est passé à travers la femme sans l'abîmer, comme une lumière traverse une autre lumière, dans une intelligence, un amour extraordinaire. Et c'est cette deuxième tentation-là, cette deuxième réalité-là, qui est soumise à la deuxième tentation. À la deuxième tentation, Jésus est envoyé au désert pour être tenté. C'est par rapport à ça, évidemment, qu'il y a la deuxième tentation. Et nous, la troisième tentation. Eh bien, cette troisième tentation. Or, la première tentation, c'est des hommes parfaitement debout, pas blessés, beaucoup plus intelligents que nous, Adam et Ève. Hein. Ce n'était pas du tout King Kong de l'époque. Hein. Le fils du King Kong, tu sais. Il y a une pomme à faire. Il y a une pomme à faire. Bouf. Ah, c'est pas ça, c'était. On n'a jamais vu, jamais, jamais vu un homme et une femme aussi lumineux, intelligent, brûlant, transparent, libre, puissant, si vous voulez, en lumière, en vie, en amour, en liberté, en rayonnement. Enfin, c'était pas seulement des hommes, un homme et une femme parfaits, ayant une puissance de vie contemplative extraordinairement développée. Oui, ce que nos enfants ne savent plus depuis une ou une génération seulement, ou deux, quoi. Ils ne savent plus, nous le savons, nous l'avons su que c'était comme ça, à cause de ces histoires en descendant du King Kong. C'est terrible, ça. Ne plus connaître la vérité. On sait que c'est faux scientifiquement, si vous voulez, l'évolutionnisme. Tout le monde sait que c'est faux. Tous les maîtres en biologie, en paléontologie, tout le monde le sait, mais seulement c'est vrai qu'on n'a pas de solution de remplacement, donc on est bien obligé de garder les anciens schèmes. On sait que c'est faux, on le sait scientifiquement que c'est faux. C'est ridicule, bon, enfin, c'est pas ridicule, mais nous revenons à la réalité. C'est pas seulement l'homme et la femme qui sont tentés, c'est pas une tentation de l'homme, vous voyez, c'est les puissances des ténèbres, les anges. Et voilà notre sujet de l'année du lundi. Ce sont les anges. C'est le monde angélique. Qui, dans un seul acte de vie intérieure, est rentré dans un état, j'allais dire, temporel. Et c'est toute l'hiérarchie, ange, archange, toutes ces principautés déchues, toutes ces vertus déchues, toutes ces puissances intermédiaires déchues, toutes ces dominations déchues, le trône déchu lui-même, vous voyez, extraordinaire. Ces êtres de pure lumière, de feu, hein, qui font un seul acte intérieur, d'une puissance qui dépasse, j'allais dire, quasi infiniment la puissance de lumière, de vie, de pénétration dans les choses que cette perfection, j'allais dire, de l'unité de l'homme et de la femme, d'Adam et Ève dans l'origine, et qui viennent se blottir tout près, tout petitement auprès d'eux, pour s'introduire en eux et les faire rentrer à leur tour librement et tranquillement et doucement et savoureusement et agréablement, voilà les trois mots de la Genèse, dans la tentation originelle. Et puis il y a Jésus. Et puis maintenant il y a la métatentation. Démasqué par le Saint-Père. Et dans laquelle nous sommes confrontés dans une lutte à mort. La déclaration à mort est faite. La déclaration de guerre est faite. C'est une lutte à mort. Eh bien, cette troisième tentation va au-delà. Elle va plus loin. On pourrait dire, presque que c'est une méta-tentation dans le texte. Ça y est. Elle va au-delà de tout ce qui, au cours de l'histoire, a constitué le thème de la tentation de l'homme. Et elle manifeste en même temps, pourrait-on dire, le fond même de toute tentation. L'homme d'aujourd'hui est soumis à la tentation du refus de Dieu au nom de sa propre humanité. C'est une tentation particulièrement profonde et particulièrement menaçante du point de vue anthropologique si l'on considère que l'homme n'a lui-même un sens, une signification corporelle, une signification intérieure, une signification naturelle, une signification métaphysique, une signification permanente, vraie, amoureuse, une signification que comme image et ressemblance de Dieu. Il faut donc tenir compte du fait que ces formes modernes de la tentation de l'homme, prenant l'homme comme absolu, atteignent aussi la communauté de l'Église, deviennent aussi des formes de sa tentation, et cherchent ainsi à la détourner de l'autoréalisation à laquelle elle a de l'autoréalisation. Autoréalisation à laquelle elle a été appelée par l'Esprit de vérité, précisément par le Concile du XXe siècle. Ouais, si on ne comprend pas, pétard. On ne comprend pas, vraiment, je ne sais pas, mais alors c'est qu'on est bouché. Si, on est un petit peu bouché parce qu'on n'a pas l'habitude de ces mots. Donc il va falloir maintenant comprendre concrètement, bien sûr. Hein, donc ça, je lis. Bon, nous sommes là justement pour préciser. Hein, pour préciser. Métatentation, qu'est-ce que c'est que cette histoire de métatentation? Donc toutes les forces sont impliquées, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire. Dans une métatentation, toutes les forces sont impliquées. Quelles sont ces forces? Vous avez venu de le comprendre. D'une part, tout le monde angélique est impliqué. D'autre part, le corps est impliqué, la matière. Et troisièmement, l'humanité est impliquée, c'est-à-dire la collectivité humaine tout entière est impliquée. Vous voyez, par exemple, Adam et Ève, c'était toute l'humanité était présente à leur tentation. Toute l'humanité, nous, c'est pour ça qu'on a le péché originel. Le Christ, deuxième tentation, toute l'humanité, je suis Marie, ils sont le nouvel Adam, ils sont l'origine de la vie au ciel, de la vie éternelle, de notre corps, notre âme et notre esprit. C'est le Père et la Mère de notre corps spirituel. De tous les hommes, de toute l'humanité. Donc dans la tentation du Christ, qui poussait dans le désert pour être confronté, vous voyez, c'est ça. C'est ça qui est derrière les tentations du Christ. Hein. Le baptême, il sort, il va dans le désert. C'est la nativité, hein. Vous savez, le schéma de la nativité, là. C'est l'Esprit Saint qui le pousse au désert et le met en pleine tentation. Et ça laisse tous les hommes, vous voyez ce lien entre qui est structuré par le chiffre de 2000, hein, n'est-ce pas? Une tentation, il y a une tentation terrible là. Et toute l'humanité est impliquée, toute l'humanité est suspendue, toute l'humanité, tous les hommes, il n'y a pas un seul homme qui échappe là, ils sont tous présents. Nous sommes tous présents à cette tentation du Christ. D'ailleurs, ce sera peut-être intéressant de lire le texte, peut-être si on a le temps la prochaine fois, ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas, je n'y penserai peut-être pas, alors bon. Enfin, lisez-le vous-même, hein. Allez le voir vous-même. Mais nous, c'est la méta-tentation. Et la méta-tentation, c'est aussi, lorsque nous prions, il faut que nous comprenions que lorsque nous prions avec Marie, avec le corps mystique de l'Église, avec le pape, avec l'Eucharistie, avec les sacrements, il faut que nous comprenions que l'acte que nous produisons est un acte qui intègre toute existence humaine. Si nous ne voyons pas toutes les existences humaines, depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin du monde, qui se rassemble dans notre acte sacramentel, c'est que ce n'est plus un acte de la vie catholique d'aujourd'hui. On a 3 siècles de retard. C'est toute l'humanité qui doit être impliquée dans notre acte. Voilà ce que le Saint-Père indique à travers ça, en disant, vous voyez, nous les chrétiens, voilà, maintenant, à partir de maintenant, je tiens à vous dire que dans notre manière de prier, tout acte d'adoration, tout acte sacramentel, premièrement, donc, doit intégrer l'existence concrète. Et ça, c'est un acte de vie intérieure qui est un acte de rassemblement universel dans un acte de glorification qui est en même temps personnel. Deuxièmement, si nous avons une préoccupation à avoir et une attention particulière à avoir, pour pouvoir faire cet acte, il va falloir que nous puissions aimer et comprendre toute existence humaine. Et donc, il faut faire la philosophie pratique de la connaissance et de l'amour de toute existence humaine. La défense de la vie, on ne peut plus demander à des institutions humaines de défendre la vie, puisqu'elles se mobilisent toutes pour la détruire dès la conception. Encore récemment, c'est cet été, je crois. C'est cet été, c'est pas vieux, je crois, que la France, après avoir fait des pressions diplomatiques, monétaires, financières sur la Pologne pendant 5 ans de suite, à force de faire des pressions, d'envoyer par centaines des gens là-bas pour former les maires, les députés, les représentants du peuple, etc., les administrations, avec des lettres officielles, disait la Pologne, vous n'entrez pas dans le système économique de l'Europe et vous n'aurez aucune subvention tant que vous n'aurez pas voté l'avortement. Et ils ont été soumis à cette pression, à ce chantage continuel depuis plusieurs années. Par exemple, j'ai un frère jumeau. Et on m'a donné la vie sous la bénédiction même du Saint-Père. Le jour où l'Assomption de Marie était proclamée par lui, au milieu même
de l'esplanade de Rome, où le peuple catholique était rassemblé pour attendre cet événement merveilleux, n'est-ce pas? Mon frère a organisé un concours. Bon, je ne sais pas parce que c'est mon frère, mais c'est un exemple. Moi, je peux donner que des exemples. Il a organisé un concours pour tous les jeunes. Donc, il y a eu des centaines de jeunes qui ont fait des dossiers, des travaux, etc. Je ne me rappelle plus quel est le concours. Et enfin, c'était pour essayer de donner ou une œuvre d'art, ou une sculpture, ou un livre, ou un roman, ou un projet scientifique, enfin, ou une invention, etc. N'importe quoi, ce que vous voulez, pour exprimer et sauver la vie humaine. Pour sauver pour que les hommes vivent, pour qu'on vive, pour que la société vive, pour que la communauté vive, pour que l'homme vive, pour qu'il y ait la famille vive, je sais pas moi, pour que tout ce que vous voulez, du moment que c'est la vie, ça va. Il a été au Parlement européen, Strasbourg, puisqu'il a vu Strasbourg. Ah oui, oui, au Parlement européen, super. Et il a demandé, est-ce que vous êtes d'accord que je propose comme prix la visite du Parlement européen. La visite du Parlement, où on discute justement comment est-ce qu'on pourrait arranger pour qu'on s'entende bien entre eux, qu'il n'y ait plus la guerre entre l'Allemagne et la France, etc. C'est ça le but du Parlement européen au départ. Ah oh, oui, oui, formidable, etc. Formidable, formidable, formidable. Ok, ok. Et puis, il y a eu, donc c'était un concours européen, etc. Bon. Voilà. Donc il a organisé ça. Et il m'a dit la semaine dernière, bon, maintenant les 40 lauréats sont arrivés, les jeunes, bon, le concours est terminé. Ils sont arrivés là-bas, au Parlement européen, il s'est fait, mais alors, enguirlandais, je sais pas quoi, on veut lui faire un procès, etc., à mon frère, parce qu'il a fait ça. Et la représentante, donc, du, je sais pas, vice-présidente, je sais pas quoi, du Parlement européen, on ne peut plus viser, bon, lui a dit, nous avons entendu dire que vous avez organisé ce concours, et que vous nous avez d'ailleurs intégré dans la production de ce concours, et nous avons entendu dire que parmi les documents que vous avez envoyé l'évangile de la vie de Jean-Paul II. À certains, il avait envoyé l'évangile de la vie, certains jeunes. Donc il y a eu. Ils l'ont su. L'évangile de la vie. Étant donné que vous avez donc mêlé une incitation au commando anti-avortement dans les cliniques, c'est comme ça qu'on lui a dit, hein. Étant donné que vous avez inclus une incitation au commando anti-avortement dans les cliniques, nous fermons toutes les portes. Parce que l'évangile de la vie du pape Jean-Paul II, c'est une incitation, hein, au commando anti-avortement dans les cliniques. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pour vous dire. Donc, les institutions humaines. Dans l'évangile de la vie. Qu'est-ce que dit l'évangile de la vie? L'évangile de la vie dit que, justement, c'est pas comme ça qu'on défend la vie. L'évangile de la vie, il faut voir ce que c'est que l'évangile de la vie. Justement, c'est l'Église, c'est le pape qui fait un document en disant « Ok, je parle pas de Dieu. D'accord. Je parle pas de... Ne parlons uniquement de la vie, comment elle commence, comment elle se développe, comment essayons de voir comment tout ce qui se dit en philosophie depuis le début, dans sa geste, depuis toujours, et quelles sont toutes les choses qui font qu'on peut s'émerveiller devant la vie. C'est ça l'évangile de la vie, c'est une espèce de gerbe pour dire que c'est beau, c'est superbe, la vie c'est extraordinaire, la vie humaine a quelque chose de très très extraordinaire, et on découvre des tas de... D'ailleurs c'est très très... c'est magnifique, hein, l'évangile de la vie. Eh bien, ça, c'est insupportable. Insupportable. Ceci est devenu insupportable. Le message, simplement pour dire, il faut vivre, il faut qu'un homme y vive, est devenu insupportable aux responsables et aux gouvernants de ce monde. Ça, c'est un signe eschatologique, ça. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que les responsables politiques organise des systèmes pour détruire, c'est-à-dire pour empêcher qu'il y ait la vie.
et qui ravit, je ne parle pas seulement de l'avortement, vous comprenez, l'avortement, bon, bah, c'est un aspect, mais de, qui peut empêcher qu'il y ait toutes des structures vitales, des structures de liberté de pensée, de liberté de intérieure, de liberté de communication, de liberté, par exemple, de toutes sortes de libertés. Cette liberté, cette vie, parce que la vie, c'est drôlement libre, c'est très fécond. Et d'empêcher et de noyer toute fécondité dans l'efficacité. Hein? Donc ça, c'est une espèce, tout est organisé pour ça. Vous voyez? Et regardez, pour la Pologne, vous ne rentrerez et vous n'aurez aucune subvention pour vous relever à la suite des destructions du communisme si vous ne votez pas une loi pour l'avortement. Il faut qu'il y ait au moins un certain nombre de centaines de milliers d'avortements chez vous, sinon pas de subvention. C'est officiel, hein? Mais enfin, tout le monde le sait. C'est un peu plus officiel. Alors qu'ils ont voté, vous voyez. Et pendant qu'ils votaient, le jour où ils ont voté, le cardinal Glemp a dit, il n'y a aucune place dans l'église de Pologne, dans l'église du monde, il n'y a aucune place pour les soldats de la mort. Et tous les artisans de la mort ne peuvent et ne pourront jamais rentrer dans l'église. Ils n'ont aucune place ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église, jusqu'à maintenant, vous le savez très bien, elle essayait de dire aux chrétiens, elle essayait de dire, ben, essayez de faire du catéchisme, essayez d'aller à la messe, essayez de rester en état de grâce, essayez de vous confesser. Elle continue à le dire, hein. C'est pas jeter la poubelle, ça, bien sûr. Mais son message au monde, ça, elle va pas dire au monde, convertissez-vous, devenez catholique. Vous avez remarqué que nous ne disons plus jamais, hein. Si je vais serrer la pompe à Clinton ou à Brigitte Bardot, là, je ne vais pas lui dire, tiens, bon, bah alors, en convertie au catholicisme, est-ce que tu veux faire une confession finale, c'est-à-dire ça comme on est malade, puis comme ça tu vas au ciel. Peut-être que je pourrais lui dire, si elle a des dispositions. Mais je vais d'abord, je ne peux pas lui dire, parce que si je lui dis, pourquoi je ne peux pas lui dire? Toutes les puissances de la vie humaine n'existent plus. Sa vie contemplative, elle n'existe pas. Il n'y a pas de vie contemplative. Sa contemplation naturelle n'existe plus. Son intelligence ne fonctionne plus depuis 50 ans. Son intelligence contemplative ne fonctionne plus. Son cœur humain ne fonctionne plus. Et je vais d'abord essayer de rentrer dans la gestion des émotions, d'atteindre, d'essayer, de fouiller comme une espèce de chirurgien extraordinaire. J'aurais aimé faire tellement de spectateurs des films de Brigitte Bardot. Je vais faire fouiller partout, hein, en elle, pour détecter la zone, voyez, cachée où son cœur humain peut se réveiller. Voyez, et essayer qu'elle ait un minimum de lucidité contemplative. Pour ça, il va falloir sauver, réveiller en elle la femme. Réveiller en elle, pas la femelle, ou je sais pas quoi, mais la femme, réveiller la vie humaine, la vie spirituelle de la femme, la fécondité. Oui. Et c'est ça qu'il faut que. Voilà ce à quoi on est. Voilà la tension que le Saint-Père vient de nous dire. Face à la tentation, la première chose à faire, certes, c'est une manière de prier particulière, qui intègre toutes les existences humaines. Ça, c'est important de savoir ça déjà. Et deuxièmement, notre attention aux autres, c'est pas pour. C'est notre attention, c'est d'essayer de détecter que ce sont des êtres humains, hein, n'est-ce pas? Et donc qu'ils ont une vie contemplative, n'est-ce pas? Parce que si tu regardes ton gosse et tu sais qu'il a une vie contemplative, effectivement, la vie contemplative va naître en lui. Si tu regardes ton gosse et que tu sais qu'il y a en lui une puissance, une possibilité de rentrer en extase, affectivement parlant, hein, que ce soit pas uniquement la caresse, hein, qu'il est bien, du coup il est pas traumatisé, n'est-ce pas? Mais qu'il ait une possibilité d'extase humaine, spirituelle en lui, que c'est jusque-là que je suis allé. Je fais la gestion des émotions moi-même à sa place. En dessous, il y a quelque chose, il y a son cœur qui est capable d'extase, d'amour vis-à-vis d'un autre qui est là. Et c'est à ça, c'est ça que je vais chercher, voyez. C'est, C'est, en tant que mère, en tant que voisin, en tant que proche, c'est ça. C'est, je vais me donner à ce lieu-là en lui. Et du coup, ce lieu-là va se réveiller. C'est un acte invisible. C'est un acte humain de faire ça. Tandis que si je m'adresse à quelqu'un pour lui faire plaisir, pour dire, pour lui donner des énergies, pour que ça aille mieux, pour qu'il souffre plus, n'est-ce pas, pour qu'il soit bien, et pour l'encourager et le chauffer, n'est-ce pas, je le chauffe bien, pour que ses centres corporels s'ouvrent, qu'il rentre bien en métapsychique en disant, ah, ça va mieux, hein, merci beaucoup. Hein. J'aurais rien fait du tout. Tandis que si on essaye de réveiller l'humain en lui, alors une fois que l'humain est réveillé, bon, très bien, si... Et je dis, bon, mais où est-ce que tu vas? Oh, bon, je sais pas où je vais. Voilà. Après, une fois que l'humain est réveillé, bon, s'il veut nous accompagner, vous voyez, s'il veut prier, ça, s'il pose des questions, je vais pas lui répondre, sur la manière de prier, etc., sur Dieu, si vous voulez. Alors, à ce moment-là, je vais répondre. Je peux dire, non, ça, c'est pas pour toi. Toi, c'est uniquement essayer d'être un homme, c'est tout. S'il pose des questions, ça ce que je suis en train de vous résumer, c'est God Human Space dans le grand style. Si tu es au boulot, tu es dans la vie professionnelle, je suis chrétien, comprenez? Ah, comme je suis chrétien, c'est normal, je suis directeur, ou je suis ouvrier, ou je suis syndicaliste, hein, ou je suis peu importe, je suis dentiste, formidable. Alors bon, je suis prothésiste, bon, enfin peu importe, vous êtes tout ce que vous voulez. Bon, je suis une vache. Bon. Je suis un fermier, bon, très bien. Bon. Alors, comme je suis chrétien, c'est de manière chrétienne que je vais vivre. Alors, je vais quand même pas foutre le Christ dans ma poche. Je vais ouvrir mon drapeau. Je dis attention, moi je suis chrétien. Alors donc attention, l'entreprise fonctionne différemment. Hein. Alors, faut être miséricordieux, etc. On va évangéliser dans l'entreprise. Hein. On va prendre, utiliser des choses comme ça, etc., 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 etc. Voilà. Le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, dit « Ne faites pas ça! Ça n'a rien à voir! Rien, 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 rien! C'est une hérésie. Vous êtes laborem exercens, encyclique du Saint-Père. Ça n'a rien à voir. Le travail n'a rien à voir avec le monde surnaturel. Rien. Le travail, c'est une peine. Le travail, c'est une peine. Tu travailles... Tu vas au boulot, c'est pénible, et tu y vas quand même. Et c'est une pénitence. Et c'est une pénitence, le travail. Et tu y vas, et tu le fais généreusement et honnêtement. Et tu fais ton travail. Et tu ne voles pas. Et tu ne fais pas le ripou. Et tu essayes de faire le travail bien, honnêtement, et surtout avec compétence. Et pour ça, il faut que tu te concentres sur ton travail. Tu commences à dire comment mettre Jésus dans mon travail, etc. Foutu. Normalement, on a le droit de ne pas te donner le salaire à la fin du mois. Il n'y a pas une manière d'être banquier. Il n'y a pas une manière d'être... Non, d'être mécano. Ce n'est pas vrai. Tu fais ton travail. Et comme tu fais ton travail honnêtement, avec droiture, avec générosité, voyez, avec attention, avec justice, voyez, dans la paix, sans chercher à utiliser, j'allais dire, des trucs pour que tu puisses t'y retrouver, tu vois. Mais non, les autres sont là, ils sont à leur place, tu es juste, tu es ferme, et si tu as l'autorité, tu exiges que les autres travaillent aussi, point à la ligne. Il n'y a pas de miséricorde, c'est la justice commutative, justice distributive, il y a un travail à faire. Et nous le faisons. Il y a une plus-value à apporter. Il faut gagner son pain. Et il faut abriter les maisons des hommes. Point à la ligne. Il faut... Alors, voilà, nous avons un travail à faire. Et voilà. Donc tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais généreusement, tu le fais... Mais il n'y a aucune vertu. Au niveau du travail, les vertus n'existent pas. Laborem exercens. C'est le Saint-Père qui dit. Il n'y a pas de vertu. Donc s'il n'y a pas de vertu, à plus forte raison, il y aurait la foi, l'espérance et la charité, qui sont des méta-vertus, n'est-ce pas ? Donc n'essayez pas de mettre la foi, l'espérance et la charité dans le monde du travail. C'est l'erreur. Parce qu'à ce moment-là, tu fais exactement, voilà une méta-tentation. Voilà une tentation terrible. Cette tentation-là est une tentation incroyable. Pourquoi ? Parce qu'elle consiste à mettre dans le monde de l'efficacité du travail, transformation de la matière, une fécondité. Donc je confonds l'efficacité et la fécondité. Vous avez le résumé de l'Apocalypse. Ça, c'est la réussite de Jézabel. Babylone, c'est ça. C'est quand les chrétiens pensent que le seul truc à faire, c'est, c'est de mettre la vertu, les vertus chrétiennes à l'intérieur du travail. Il mélange tout. Hein. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Le monde artistique et le monde humain. Le monde du travail et le monde de la fécondité vivante de la vie. Vous voyez, alors, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton travail, tu le fais bien. Ton devoir d'État, combien de fois on l'a dit ça? Ton devoir d'État, tu le fais bien. Tu ne mélanges pas intérieurement, d'accord? Le matin, tu offres tout ton travail, ce que tu vas faire. Le soir, bien sûr, tu revis dans le Christ. Donc, de temps en temps, tu t'arrêtes aussi pour faire un acte anagogique. Ça, très bien. Un acte de foi, un acte d'espérance. Le Saint-Esprit t'y fait penser, ça te fait travailler encore mieux. Les deux heures suivantes, ça, c'est parfait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais ça, ça ne se voit pas, ça, premièrement. Ça, tout à fait, mais c'est autre chose. Vous voyez, je vais pas. La première tentation, c'est de tout confondre. Je confonds le cochon et l'homme. Je confonds la machine et l'homme. Je confonds le travail et la fécondité de l'homme. Vous voyez? Et ça, là, ici, je viens de vous faire un résumé de l'évangile de la vie. De tout confondre, c'est tout rabattre, vous voyez, sur l'artificiel, sur la mécanique, sur l'éprouvette. Voyez. Et du coup, du côté des chrétiens, ça fait quoi? C'est que ils disent, oh là là, vite. C'est de mélanger. C'est de mélanger. Alors du coup, on ne se retrouve plus. Et du coup, on essaie d'avoir une certaine efficacité au niveau, donc, au niveau artistique. Alors on met tout notre service de vie chrétienne pour essayer que ça passe quand même. Oh, il y a tellement d'affiches, etc., pour le mal. Vite, on va faire des affiches pour le bien. Voyez, c'est pas sur ce plan-là, vous voyez. C'est pas... Tout ça pour comprendre que la métatentation, donc pour revenir, quand Saint-Père dit qu'il y a une métatentation, et elle exige donc une très grande concentration. Il n'a pas dit attention. Il a dit concentration. Sur l'homme. L'Église doit se concentrer sur l'homme. Si tu vis de la grâce et que tu es un saint, c'est-à-dire si ton corps spirituel est capable d'engendrer la Jérusalem céleste avec le Christ, de manière à détruire le mal à l'état potentiel partout, lorsque tu en es arrivé là, alors toutes les forces de Dieu, toutes les forces de la grâce et toutes les forces de l'homme sont en toi pour que tu sois attentif à du coup rentrer vis-à-vis du prochain qui est à côté de toi, que tu rentres en lui, vous voyez, de manière à percevoir en lui la racine de l'unité de son corps, de son âme et de son esprit, c'est-à-dire l'endroit où il a un cœur humain, lui-même ne connaît pas, lui, il n'en fait plus l'expérience depuis longtemps, et là où il a une intelligence contemplative naturelle. Ça fait longtemps qu'il ne sait plus comment ce que c'est ça, puisqu'il confond ses visions imaginatives ou ses apparitions avec du spirituel, alors que ça n'a rien de spirituel, vous le savez bien. Quiconque a fait une seule expérience de vie contemplative sait que c'est autre chose, la vie contemplative, l'intelligence contemplative. Donc on essaye d'atteindre en lui le lieu où cette intelligence contemplative peut naître, où elle existe encore à l'état potentiel, elle attend qu'une seule chose, c'est d'être... c'est comme une petite épingle, vous savez, qu'on la réveille un peu. Quoi. Mais c'est humain, c'est pas de la sainteté, ça. Je ne vais pas réveiller la sainteté dans le cœur de l'autre, je vais réveiller sa puissance personnelle de vie humaine, sa puissance du cœur profond, là où il est capable d'être dans un état d'extase affective. Extase affective. Là où il est homme, quoi. Là, on va réveiller sa mémoire d'origine, sa mémoire finale. Voilà, ça c'est la nature. On va réveiller les puissances naturelles de l'homme. Voilà ce qu'il faut essayer, mettre toute notre... capital de vie par rapport à ceux qui sont là. Voilà les actes que nous allons faire vis-à-vis du prochain, qui, comme vous le voyez, sont des actes. Bien sûr, c'est à l'occasion d'un service qu'on va faire ça, hein. C'est l'occasion d'une attention, d'une écoute. Bien sûr, hein. On va l'aider à remplir ses papiers, hein, puisqu'il ne sait pas écrire, on va l'aider. D'accord, c'est à ces occasions-là. Mais ces occasions-là sont comme des toboggans qui me permettent donc de faire un acte intérieur et d'atteindre en lui ce que malheureusement, ce dont il a perdu l'expérience de sa propre identité humaine. Pour qu'il puisse revivre, qu'il soit libre, qu'il soit autonome, qu'il soit en sécurité spirituelle, et qu'il puisse donc être capable d'être dans un état de recherche de la vérité et de source intégrale d'amour. Bon, si après, pendant 2 heures, il veut dégager, très bien, il dégagera, mais en tout cas, il pourra revenir à ça. Voilà, et voyez, il a donné une nouvelle liberté. C'est le pouvoir de l'homme de réveiller la liberté de l'autre en réveillant des puissances qui se sont nécrosées, des puissances spirituelles, intelligence contemplative, cœur profond, capacité d'extase d'amour, mémoire d'origine et mémoire finale dans le corps. Ça, oui. C'est pour ça qu'on s'entraîne avec des enfants. Avec des enfants qu'on s'entraîne à faire ça. Et voilà ce que dit le Saint-Père, dit la métatentation, c'est cela, c'est que on est dans un état, on s'en rend même plus compte, parce que c'est universel, l'homme est mort. Donc il faut réveiller l'homme. Comment veux-tu donner la grâce s'il n'y a plus une humanité réveillée? C'est l'eau sur les plumes du canard. Tu parles de Jésus, tu parles des sacrements, tu parles de la confession, tu parles de l'évangile, tu parles de la foi en église. Vas-y, va parler de ça à, je sais pas, aux gens. Ils disent, bon, ça ne me dit rien du tout. Ils vont te le dire d'ailleurs, ça ne me dit rien du tout votre truc. Ça m'intéresse, mais absolument pas. Ça passe sur lui comme l'eau sur les plumes du canard. C'est imperméable complètement, et forcément. Donc ne lui parle pas de ça, enfin. C'est ce que dit Jésus. Ne donnez pas des perles aux pauvres. Et il ne l'a pas dit pour tous les temps, il l'a dit pour la fin des temps, ça, puisque, vous voyez, les 2000 pauvres. Ne donnez pas des perles. Non, ce que vous faites, c'est vous concentrer votre tir, si je puis dire, votre attention, votre concentration. Vous concentrez votre affection, votre perspicacité, votre pouvoir, si je puis dire, d'humilité, de pauvreté, d'espérance, de confiance et d'amour et de sainteté, hein, d'accord, tout à fait, vous le concentrez sur cette attention pour que redécouvrir en lui vous-même que c'est un homme et qu'il est contemplatif et qu'il cherche la vérité sur l'homme, sur la vie. Il cherche la vérité. Et qu'il cherche en lui ce qui est en dessous, qui lui donne la sécurité, l'autonomie et cette capacité d'extase affective et de retrouver l'amour vrai, réel. Et que du coup, il pourra courir sur ces voies-là et qu'il est libre. Alors après, il sera libre d'aller dans telle adhésion par rapport à la foi, par rapport à tel... Il sera libre. À partir du moment où il est réveillé au niveau de l'amour humain, au niveau de la vie contemplative et de la recherche de la vérité, de la mémoire de son corps, ben c'est évident que si on lui parle d'un mot de l'Écriture, une révélation de Jésus, l'eau ne sera pas plus sur les plumes d'un canard, vous comprenez ? Et alors à ce moment-là, il y aura beau y avoir l'espèce de possession absolue finale de Lucifer, vous voyez, de tous les démons, vous voyez, comme le dit Apocalypse, sur la collectivité humaine ou sur lui, c'est un homme, il ne bougera pas. C'est un cochon, il est foutu. Et donc, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que ce soit des hommes debout, des femmes debout. La métatentation, c'est quoi? C'est quand le diable, l'intelligence métallique des hommes font alliance pour non pas détruire le christianisme, pour non pas détruire la religion, pour non pas, non, pour non pas détruire les signes correspondants, non, mais pour détruire dans l'homme ce qui fait qu'il est libre de contempler un autre et d'aimer un autre, et de vivre, et d'avoir une fécondité vis-à-vis d'un autre. C'est ça qui est visé. Et philosophiquement, au niveau de l'histoire de la pensée, au niveau des pédagogies, au niveau des systèmes économiques, au niveau des systèmes d'organisation, des collectivités, etc., des écoles, etc., c'est vrai, philosophiquement, que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les systèmes ont pour but, en effet, de détruire la vie naturelle des enfants, la vie naturelle des adultes, la vie normale et naturelle d'une femme, l'autorité naturelle de l'homme, la vie familiale, la vie, tout est fait pour détruire ça, et pour qu'on puisse rentrer donc dans une humanité qui est unifié dans une puissance universelle de lumière efficace. Et c'est l'homme qui devient l'absolu, mais c'est un absolu d'un homme replié sur lui-même, dans sa puissance d'efficacité, d'unité dans la lumière efficace. Voilà, tout est organisé pour ça, avec, en nota bene, si on fait ça, c'est pour supprimer les guerres. C'est pour supprimer la souffrance, c'est pour supprimer la vérité, c'est pour ça qu'il faut la tolérance, parce qu'il ne faut pas tolérer qu'il y ait quelqu'un qui dise « mais il faut chercher la vérité ». C'est ça, la tolérance. La tolérance, c'est d'être d'une intolérance absolue vis-à-vis de quelqu'un qui dit « mais il faut chercher la vérité ». Il n'y a pas de vérité. Voilà ce que c'est, être tolérant. Donc, fermez-la. On n'a pas à chercher la vérité. Donc, interdit de faire de la philosophie, interdit de faire l'expérience de l'homme, d'expliquer à quelqu'un « voilà ce que c'est l'expérience normale ». Voilà ce que ça m'a apporté. Voilà ce que 3000 ans de sagesse. Voilà. Supprime-moi ça. Ça, c'est l'origine des guerres. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est bien sûr pour que ça se passe bien, ça soit disant. Vous voyez, c'est, voilà. Donc, voilà la méta-tentation. Ça, c'est au niveau collectif. Vous voyez, au niveau collectif, on se trouve face à ça. Donc attention, il faut bien repérer. C'est drôlement intéressant de savoir ça. Voilà, c'est pour ça que nous, ici, donc chaque fois qu'on vient ici, on fait une journée entière de philosophie. Et la fois prochaine, nous regarderons quand même les effets de la première méta-tentation sur notre vie intérieure. Puis les fois suivantes, on regardera les effets de la deuxième tentation sur notre vie intérieure, la fois suivante, etc.